Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous les révoltés d'ici ou là et aux dormeurs du dimanche après-midi, vous êtes bien dans l'émission Vacarme en Réunion. Et on est aujourd'hui avec Bianca.
Salut à tous. Salut Johnny.
Et donc aujourd'hui on va parler de l'actualité de la semaine, un peu des procès du mouvement Notav qui vont avoir lieu fin mai, du communisme rural et agraire, et on terminera un peu avec un voyage politique avec un ovni de la littérature des années 80.
Qui s'appelle
Bolo Bolo.
Bolo Bolo. Alors on commence par un tout petit peu d'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'actualité dijonnaise, mais là il y a le retour des caillassages au Grésil et à Castelnau. Du coup ça nous fait l'occasion d'une petite brève rapide pour saluer cette judicieuse pratique.
tout à fait, excellent.
Et du coup voilà, trois nuits cette semaine que les flics se font caillasser quand ils passent à Castelnau. Et même les pompiers, apparemment, un de ces soirs, quoi. Du coup, on n'en sait pas beaucoup plus, mais comme on s'était dit que c'est le genre d'information qu'on relayerait ici, et ben voilà, il y a manifestement des petits malins qui recommencent à s'amuser dans les rues de Castelnau en ce moment.
C'est le printemps, quoi.
C'est le printemps qui revient et les fleurs et les pierres refleurissent, c'est ça. Et voilà. Et sinon, on voulait dire un petit mot aussi sur sur Weshden Benarat, qui est une jeune étudiante à Dijon, là, sur le campus où on est en ce moment, qui risque de se faire expulser bientôt parce qu'elle est tunisienne et qu'elle n'est pas de nationalité française et qu'elle vient de recevoir une OQTF. Et du coup, on parlait un peu d'elle, là, dans les journaux sur Dijon. Il y a trois semaines, nous, donc du coup, dans la dernière émission de Vacarme en Réunion, on avait reçu des lycéens de Montchapet qui expliquaient qu'ils avaient fait des manifs en soutien à Denisa, qui était sans papier et qui risquait de se faire expulser, et que les manifs avaient plutôt réussi à retarder un peu son expulsion, à ouvrir des négociations avec la mairie, etc. Et du coup, manifestement, ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas à la mairie, quoi, qui comprend pas qu'à chaque fois qu'elle va expulser maintenant un étudiant, elle va se prendre une manif sur la gueule. Et du coup, elle recommence, et voilà. Et du coup, ça fait un peu la une du bien public. C'est Weshden qui risque de se faire expulser de France parce qu'elle n'a pas des bons résultats à l'école. C'est quand même un peu fou, quoi. Elle est du coup tunisienne, elle n'a pas la nationalité française et elle a un permis de séjour parce qu'elle fait ses études en France. Et comme ses résultats sont pas satisfaisants, ils jugent que voilà, elle est pas bien intégrée, je sais pas trop quoi. Et du coup, ils décident d'exiger plutôt qu'elle quitte le territoire français. Du coup, voilà, si jamais Weshden, tu nous entends, bah, t'es la bienvenue ici pour nous expliquer un peu ce qui t'arrive. Voilà, sur.
Oui, en plus, c'est Weshden. Assez dur, j'ai vu que. Ouais, elle a pas son année à un dixième.
Ouais, ou... c'est ça, c'est que dalle. Ouais, parce que du coup, le bien public fait prétexte. Une petite tartine sur sa situation. C'est un peu gênant, quoi. Il y a vraiment aucune pudeur, quoi. Ouais, il parle vraiment ouvertement, du coup, de sa situation scolaire, ses résultats scolaires à son dernier semestre, avec tous les débilos des commentateurs du bien public qui viennent te dire qu'elle a rien foutu cette année, alors qu'elle mérite bien d'être envoyée dans son pays ou des choses comme ça. C'est assez dégoûtant. Mais voilà. Voilà pour Weshden. Et du coup, on voulait parler un peu plus longuement de ce qui vient là, du procès Notav du 22 mai. Dans Terrain Vague, il y a deux semaines, ils vous ont lu l'appel à défaire.
La semaine dernière.
C'était la semaine dernière ?
Ouais.
C'était les vacances, il y avait une émission qui a sauté, c'est pour ça que je dis ça. Ah, oui. Je sais pas quand c'était. Peut-être la semaine dernière, ils vous ont lu l'appel à défaire l'antiterrorisme qui a été écrit pour appeler à ce qu'il y ait des mobilisations qui se fassent autour du procès Notav du 22 mai. Et du coup, voilà, on voulait réexpliquer rapidement. Le 22 mai, il y a Chiara, Claudio, Nicolo et Mattia qui passent en procès en Italie et qui sont accusés d'entreprises terroristes avec mise en danger de la vie d'autrui. Et qui risque pour ça une vingtaine d'années de prison, quoi. C'est la peine planchée s'ils sont effectivement reconnus coupables d'entreprises terroristes, c'est 20 ans de prison.
Ouais, à cause des législations antiterroristes en Italie.
Exactement.
Des années issues des années
2005. Il y a certains articles qui datent encore des lois fascistes. Même des années 30, comme c'est la coutume en Italie d'avoir gardé certaines législations fascistes et de ne pas les avoir abrogées. Et puis il y a certains articles de loi dont ils servent là pour les accuser qui datent des lois antiterroristes, plutôt qui ont été faits suite aux attentats de Madrid en 2005 en fait.
Ouais, d'accord.
Qui les autorisent à garder ces quatre jeunes gens en quartier de haute sécurité, ils ont droit à aucune visite, etc. Et du coup, s'ils sont accusés...
En plus, il faut dire qu'en termes d'antiterrorisme, c'était un mouvement collectif assez large qui a pris d'assaut le chantier
du
TGV dans le Val-de-Suze.
Ouais, parce que là, on n'a rien dit, mais effectivement, ils sont accusés d'attentats terroristes. En fait, les faits exacts, c'est qu'on leur reproche d'avoir participé à un assaut du chantier de construction du TAV, c'est-à-dire du TGV qui va aller de Lyon à Turin. C'est un TGV, la construction qui est contesté. Il y a une espèce d'énorme lutte en Italie, là-bas, dans le Val de Sousse, pour empêcher la construction de cette ligne de train. Et eux, ils sont accusés d'avoir pris part un soir avec une trentaine de personnes à un des assauts du chantier, qui a permis de cramer une des machines qui était en train de faire avancer le chantier, quoi. Une machine qui a été cramée au cocktail Molotov. Et du coup, eux, ils sont accusés d'avoir pris part à ce truc-là, quoi. Du coup, dans les faits, en fait, il y a dégradation d'une machine et ça se transforme en entreprise terroriste avec mise en danger de la vie d'autrui sous prétexte que les fumées entraînées par le brûlage, l'incendie de la machine aurait pu entraîner la mort des policiers qui la gardaient.
Ah oui.
C'est quand même complètement fou.
Voilà, du coup, sinon, c'était une fabuleuse disruption. Disruption qu'on verra à la fin de l'émission.
Pour le lexique de l'émission. Et du coup, leur procès, c'est le 22 mai. Et il y a un appel international à ce qu'autour de cette date se fasse n'importe quelle manifestation de soutien à ces quatre notaves. Du coup, des rassemblements, des pancartes, des banderoles, des tags, des cantines de soutien, des concerts de soutien, tout ce que vous voulez, quoi, mais d'essayer de montrer un peu qu'il y a une espèce de résistance internationale face à la criminalisation des luttes, parce que c'est ce qui se passe là, ça fait partie d'un mouvement plus général qui vise à de plus en plus nommer terroristes ce qui est en fait des luttes sociales, quoi, des mouvements sociaux ou des luttes sociales à des endroits où il y a des gens qui protègent certains territoires, quoi, et qu'on nomme aujourd'hui terrorisme, et donc contre lequel on peut utiliser toute une kyrielle de lois complètement abusives qui sont les lois antiterroristes. Voilà, mais vous pouvez retrouver sur le site de l'émission l'appel à défaire l'antiterrorisme, l'appel à faire des actions autour du procès notable. Il sera sur le site qui est tvnr.noblogs.org. Voilà. C'est tout, je pense, pour l'actualité.
Ok, super. Tu nous parles peut-être de la musique qui va
suivre. Ouais. On va écouter une chanson qui s'appelle « Si parte et si torna insieme », ce qui veut dire « on part et on rentre ensemble », qui est une des phrases un peu comme ça, on pourrait dire un slogan, mais c'est un peu bizarre, une des phrases un peu magiques qui est souvent prononcée dans le Val de Suze, dans la lutte contre le TAV. C'est pour dire quand on part faire une action ou une manifestation, on part tous ensemble et on rentre tous ensemble, on laisse personne se faire attraper par la police, on laisse personne derrière nous. Et là, c'est une chanson de rap qui est sur un album qui s'appelle Rap Revolutione a Parola, ça veut dire révolution en mots, et qui a été fait par Russ 165. Et cette chanson particulière, elle est de Bronx. Voilà, ça s'appelle Si parte si torna insieme.
Grazie Rus per l'opportunità. Effetto domine con la valle, per la valle. Combattiamo per la libertà. Yeah. lacrime su lacrimogeni, ansiogeni per palliti, vecchi immobili, senza fazione, direttore, politico, attore, so solo che quando c'è da zittire la nazione, usano anche il CS, bestie, non ce l'ho con voi perché avete peccato, ma con il mandante che vi ha mandato, chi è stato? Gridavano in piazza Limonda, per tramutarci in Black Flow sul TG in onda, la merda viene sempre a galla, per ogni falla, repressa con la rabbia di chi comanda e comanda un comando, il loro fine come unico comando, parole come sassi a mio modo, scomodo, effetto domino, dono note, come schiaffi di repressione, oggi non si può più parlare con le persone, scusate se sarò tragico, ma per il futuro il tragitto è critico, anzi mo, l'Europa sta crollando, inevitabile, la legge del più forte è incontrastabile, scrivo pagine per ogni fiume che muore, senza lacrime, favole, giornalisti sciabole, cole, per la mala informazione, scariche di tensione sulla popolazione, in fronte una sola data, 27 giugno, Piemonte, zona militarizzata,
si parte, si torna assieme, Piemonte come Atene, nota, nota,
spezza le catene,
si parte, si torna assieme, Piemonte come Atene, nota, nota,
spezza le catene, vi ostinate a bucare da una parte all'altra, ma sappiamo che finirà come la Salerno, Reggio Calabria, troppe parole per chi le vende, per una rete che cade ce n'è un'altra che ti riprende, ma quel treno non partirà,
Ponte svento la bandiera bianca
col simbolo notta,
combatto per la pace e la salvezza del mondo.
Bon, salut à tous, vous êtes bien dans Vacarme en Réunion. Je le dis à chaque fois parce qu'il paraît qu'il faut le dire. Alors,
c'était donc, voilà. Si torna e... si parte si torna insieme de Bronx. Voilà.
Ouais. Vous avez entendu qu'il y avait une petite intrusion de assassin dans le. Le rap est international. Alors, bah, moi, je vais vous parler des diggers, enfin, puis on va poursuivre avec en général la question des communaux et du communisme rural, le communisme rural étant une question qui traverse l'humanité depuis des siècles immémoriaux et qui continuera de nous traverser. Alors bon, bah, pourquoi pas en parler aujourd'hui, et puis c'est l'occasion d'amener un peu de la campagne au cœur même des métropoles, sur les ondes des métropoles. Donc profitons-en. Alors pour ce qui est des diggers, donc c'était un groupe issu des levelers, qui veut dire les niveleurs, et qui était une des ailes de la New Model Army de Cromwell, une des ailes les plus radicales et les plus plébiennes à l'époque. C'est-à-dire c'était les soldats du rang qui avaient commencé à se politiser, qui appartenaient à ce groupe-là. Et donc les diggers, qui sont une scission, donc enfin une scission, bon à l'époque on n'aurait pas dit scission, mais qui sont une partition de ces levelers, ils apparaissent pendant la Révolution anglaise au milieu du XVIIe. Et c'est en quelque sorte les premiers squatteurs de l'histoire en tant que tels, puisqu'ils se mettent à occuper des terres, et ils s'opposent au mouvement des enclosures, qui était ce mouvement de clôture des terres où on commençait à mettre des limites aux prés, aux champs et aux forêts. Alors, leur coup d'éclat et ce qui fait vraiment l'apparition des diggers, c'est en avril 1649, deux mois après l'exécution du roi Charles Ier, quand un groupe d'individus assez pauvres prend possession des friches sur une colline qui s'appelle la colline de Saint-Georges. Et de cette prise de la colline, ils prétendent faire un point de départ d'une vaste opération de réappropriation collective des communaux d'Angleterre. Alors l'expérience durera à peine un an. Ils finiront par être massacrés à la fois par les habitants des villages environnants qui commençaient à s'attacher à l'idée naissante de propriété des terres, et qui voyaient d'un mauvais œil que des gens s'installent sur les leurs. Et puis surtout l'armée de Cromwell qui va se retourner contre eux dès qu'ils auront plus besoin d'eux. Et de cette aventure, alors qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Parce que ça, du coup, c'est assez court hein, historiquement, mais il y a eu quand même eu des traces assez importantes parce que un de leurs personnages principaux, qui était Gérard Whistonley, qui était un pasteur, a écrit en un an 15 traités politiques, ce qui fait beaucoup. Et en particulier, il publie en janvier 1649, donc l'année de la prise de cette colline-là, il publie un texte qui s'appelle « La nouvelle loi de justice », et où il affirme avoir reçu dans une extase la révélation de la nécessité d'une culture collective des communaux. Cette activité donc d'écriture et puis l'activité des Diggers, elle s'interrompt au moment de leur défaite, c'est-à-dire un an plus tard, environ 1650. Et il publiera un dernier ouvrage après, en 1652, qui s'appelle la loi de liberté, et qui est un texte un peu plus triste, parce qu'il prend acte de leur échec. Et donc, il admet que l'avènement du communisme se fera pas spontanément. Et il propose, sans illusion, à Cromwell un projet de constitution dont la rigueur collectiviste semble assez éloignée de leur fougue de jeunesse.
Mais du coup, c'est quoi que eux ils appelaient communisme?
Alors à l'époque, ils parlent pas de communisme, ils parlent de se réapproprier les communaux, ce qui était déjà enfin, communisme ou communaux, c'est un terme qui est très vieux.
Le bien commun, quoi, les terres qui étaient aux communes.
Ouais, c'est ça, c'est ce qui appartenait. Alors, j'ai un truc sur les communaux, ça tombe bien, parfait. On va y revenir un peu après, mais les communaux, c'était en fait l'ensemble de ces bois là, ces forêts, ces champs qui étaient ou des biens fonciers dans l'ensemble qui appartenaient à personne en fait, qui étaient offerts au libre usage des habitants d'une localité. C'est-à-dire tous les habitants pouvaient utiliser ces terres-là. Alors en général, c'était les veines pâtures, c'était les pâturages pauvres, quoi, qui représentaient pas de grand intérêt, et où du coup tout le monde pouvait venir faire paître ses bêtes. C'était aussi le bois qui pouvait être ramassé ou coupé librement, et c'était aussi et surtout tout ce qui était les taillis, les genêts, etc., qui pouvaient être défrichés et utilisés pour le chauffage ou pour nourrir les bêtes gratuitement.
Du coup, pour eux, le communisme, c'était juste conserver cet état de fait de la communisation des terres, quoi.
C'est
mettre en commun, quoi.
C'est l'idée de en fait, ce qui a été appelé plus tard après communisme, c'était une catégorie qui a été plaquée sur ce mouvement-là. D'accord. Mais ce qu'ils appelaient, ça a été désigné comme ça parce que en fait, ces gens-là, ce qu'ils revendiquaient, c'était un libre usage des terres, quoi, et que les terres soient à tous. Et en fait, même où il n'est pas question de propriété collective, il est question d'impropriété, en quelque sorte. Il n'y a plus de propriété, il y a juste un libre usage. Et je vais, pour peut-être clarifier un peu, je vais continuer avec la pensée des Diggers.
Ouais.
Et parce que c'est une pensée qui est assez rigolote, qui est empreinte de foi chrétienne, forcément, c'est au XVIIe siècle en Angleterre, alors bon, la religion est très présente. Mais oui, à cette idée-là, un peu de vie collective, et donc du coup, ça se traduit assez étrangement. C'est à la fois, c'est un groupe qui naît d'une paroisse, parce que Gérard Whistonley était un pasteur, et qui en même temps, c'est une paroisse un peu particulière, il refuse la transcendance de Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose d'extérieur, Dieu, c'est la nature, Dieu, c'est en chaque chose, c'est en chacun de nous. Il refuse aussi le clergé, donc toute la hiérarchie cléricale et le fait que des puissants puissent s'arroger la parole de Dieu. Et il refuse la Bible aussi, enfin jusqu'à la Bible qui serait un... Bon, il n'y a pas de raison que Dieu ait sa parole inscrite quelque part, Dieu est en chaque chose, donc la parole de Dieu elle est partout, quoi. On voit une plante, c'est la parole de Dieu.
Mais comme c'était le cas en fait de pas mal de groupes religieux à l'époque, quoi.
Ouais, hérétiques souvent en général, parce que c'est hérétique quand même, quoi, mais ouais. Donc en général, c'était très dérangeant parce que ces gens-là, ils avaient aussi quelque chose qui va avec le refus de la transcendance de Dieu. C'est l'idée que le bonheur est pas quelque chose de transcendant non plus. C'est pas quelque chose qui arrivera après, quoi.
Ouais.
Et du coup, le bonheur, c'est maintenant tout de suite. Et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Et donc, dire le bonheur, c'est maintenant tout de suite, ça veut dire, en fait, c'est pas s'en remettre à des... C'est pas remettre son salut entre les mains de, justement, des puissants à nouveau. C'est en faire la question, une question collective, une question politique. Et ça veut dire, du coup, en général, bousculer l'ordre existant. Et ça, c'est... Du coup, c'est forcément très dérangeant, quoi. À la fois théologiquement ou religieusement pour les institutions catholiques ou chrétiennes qui perdent leur pouvoir par ça, et puis pour les institutions en général qui du coup voient leur ordre social complètement menacé, quoi. Mmh. Voilà. D'ailleurs, j'avais une citation là de Will Stanley là, qui va bien avec cette idée-là, là, de ce qu'on disait. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir notre ciel ici, c'est-à-dire un niveau de vie confortable sur terre et plus tard également? Tandis que les hommes contemplent le ciel, imaginant un bonheur futur ou craignant un enfer après la mort, on leur ferme les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir leurs droits naturels et ce qu'ils peuvent faire pendant leur vie. Donc ça, c'est une des citations des Diggers. Mais il y en a tout un... S'il y en a tout un tas d'autres, hein, comme ça, là j'en ai une autre. S'il pense que Dieu est dans un paradis au-delà des cieux et prie ce Dieu qu'il imagine être là, sans avoir un témoignage intérieur, cet homme adore sa propre imagination, c'est-à-dire le diable. Bon, bref, tout un tas de choses comme d'idées comme ça qui remettent complètement en cause l'idée que le paradis est quelque chose d'extraterrestre ou de divin, quoi. Le paradis est terrestre et l'enfer est terrestre. Il y a aussi donc un rejet terrible de la, forcément, il est très virulent de la propriété dans leur, puisqu'ils veulent s'approprier les communaux. La propriété, c'est associé à la chute, quoi, à la déchéance au fait que l'homme ait été chassé du paradis divin, justement. Et Will Stanley disait par exemple: l'Angleterre est une prison, les innombrables subtilités des lois protégées par le glaive sont le verrou, barreau et porte de la prison, les hommes de loi sont les geôliers et les pauvres les prisonniers. Et ils finissent par donc du coup arriver à cette idée de sécession avec donc j'ai encore une, j'en balance un peu, hein.
Vas-y.
Et encore une autre citation donc de Will Stanley, et assez génial. Vous les frères aînés qui appelez vôtres les enclosures et en excluez les autres, si vous voulez avoir des magistrats et des lois extérieures à la manière des nations, nous ne nous y opposons pas. Et si l'un d'entre nous, vos frères cadets, vole votre blé et votre bétail ou abat vos haies, que vos lois s'en saisissent. Mais tant que nous demeurerons dans les limites de nos communaux, vos lois ne nous atteindront pas, à moins que vous ne vouliez opprimer les innocents et répandre leur sang.
Du coup, ils avaient pris possession de certaines terres qui aurait dû passer en propriété privée sur une certaine commune, quoi, ou des certaines communes.
Ouais, en fait, c'était des terres qui appartenaient à des seigneurs, apparemment.
D'accord.
Et voilà, et ils ont, en gros, bah là, ce que je viens de lire, ça dit que bah, les lois de la monarchie anglaise, il y avait plus court, quoi.
Mm-hmm.
Donc, ils s'arrogent le droit de voler, en plus, aux alentours, ce qui est quand même assez rigolo, quoi. Il y a vraiment un... On transposerait ça aujourd'hui, ça donne un peu squatter-pilleur ou je sais pas quoi, mais il y a un truc assez rigolo et qui en plus nourrit toute une littérature et un imaginaire lié à l'époque, donc assez intéressant. Et ce qui est, il y a quand même une vision aussi assez belle de la nature qui est une ressource inestimable dont tout le monde doit profiter, pas équitablement, mais librement, quoi, selon ses besoins. Donc, je disais que cette question-là, elle a jamais cessé de travailler l'imaginaire et la vie des hommes. On la retrouve presque un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, chez un personnage qui s'appelait Babeuf, et qui donc a été guillotiné à la fin de la Révolution française pour avoir fomenté une conspiration contre la Révolution. La révolution, enfin la réaction au sein de la révolution, la réaction thermidorienne, qui était en fait, qui correspondait à un arrêt de la révolution française et un retour un peu en arrière, plus favorable à la bourgeoisie. Et donc ce Babeuf, ils avaient créé des comités de salut public clandestins un peu partout en France, ils étaient quand même relativement nombreux et puis ils étaient organisés, et leur but c'était à un moment donné de faire une espèce de coup d'état dans la Révolution qui permettrait de collectiviser les terres et les richesses, et surtout de mettre fin à la terreur qui, où eux en avaient un peu marre de cette, cette espèce de dégénérescence des êtres qui sont normalement sont assez beaux pendant une révolution, et puis qui là se mettaient à torturer un peu à tour de bras à la fin de la révolution. Donc voilà, ça faisait partie aussi des trucs qu'ils voulaient arrêter. Alors, encore une fois, j'ai un texte que... Mais peut-être que tu peux le lire, Bianca, non ?
Un texte de Babeuf, du coup ?
Un texte de Babeuf, donc qui est tiré de la conspiration des égaux.
Législateurs et gouvernants, qui n'avaient pas plus de génie que de bonne foi, propriétaires riches et sans entrailles, en vain essayez-vous de neutraliser notre sainte entreprise en disant « Ils ne font que reproduire cette loi agraire demandée plus d'une fois déjà avant eux ». Calomniateurs, taisez-vous à votre tour, et dans le silence de la confusion, écoutez nos prétentions dictées par la nature et basées sur la justice. La loi agraire, ou le partage des campagnes, fut le vœu instantané de quelques soldats sans principe, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. Nous tendons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le bien commun ou la communauté des biens. Plus de propriété individuelle des terres, la terre n'est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre. Les fruits sont à tout le monde.
C'est joli, non ?
Ouais, c'est joli, effectivement.
Et ce type-là, là, Babeuf, qui s'appelait de son prénom Camille, eh ben, il s'est appelé après Gracchus, Babeuf, en référence déjà au frère Grac, qui, sous la République romaine, avait tenté de mettre en place des lois agraires, et pour rendre les terres aux plus pauvres, puis qui avait fini par faire une sécession à Carthage, où ils avaient mis en place des colonies, pareil, un peu de pas comme les diggers, mais bon, il y avait une collectivisation, une communisation des terres, et donc c'est pour ça que Babeuf reprend le terme de Gracchus, c'est en référence donc au frère Grac. Voilà.
Mais c'est sûr qu'il y a dû avoir un passage dans l'histoire qui devait être un peu fou, enfin le moment de faire rentrer les terres, la terre, les forêts, etc., dans l'économie, quoi, le faire devenir une marchandise, ça devait être vraiment un passage historique hyper important.
Ouais, brutal. Parce que
aujourd'hui, ça nous apparaît presque une marchandise comme une autre. Enfin, ça paraît à personne saugrenu l'idée qu'un champ, il est à quelqu'un, qu'on en a hérité, qu'on va le transmettre, qu'on peut l'acheter, qu'il a une valeur sur un marché, suivant est-ce qu'il est constructible ou pas, etc., quoi. Mais on voit. Le passage, quoi, transformer une terre qui est, je sais pas, comme une espèce de grande étendue, quoi, qui est un paysage, qui est quelque chose dans lequel on va puiser, où on s'installe, ou qui appartient autant aux poètes qu'aux agriculteurs, que je sais pas qui, le transformer en parcelle, qu'on va pouvoir, auquel on va pouvoir donner une valeur, etc. C'est sûr que ça a dû créer des incompréhensions hallucinantes déjà, parce que c'est pas du tout.
Et justement, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un texte de Babeuf où il parle justement de l'époque où justement, de cette période-là, là, de clôture des terres, et où du coup il y a eu l'appropriation, la privatisation des terres. Et il dit, en contre-exemple, pour montrer le côté absurde de cette appropriation des terres, il dit, est-ce qu'on imaginerait par exemple l'eau et l'air devenir une propriété ? Et il dit, bon, il en va de même pour la terre. Et nous, on est là deux siècles plus tard, deux siècles plus tard. Et où l'eau est devenue une propriété. Bon, il y a la Lyonnaise des eaux, il y a tout ça qui nous, l'eau, on l'achète. Et puis des fois très cher. Et l'air, il y a un marché du carbone en Europe. Bon, c'est pas inimaginable qu'un jour il y ait vraiment une propriété de l'air, quoi.
Ouais, c'est vraiment un des dilemmes de l'économie aujourd'hui, quoi. C'est un truc comme ça, quoi. C'est que l'air appartient pas aux gens, et pourtant il y a des droits de gaspiller de l'air, quoi. Puisqu'il y a des droits de polluer, il y a des droits. Du coup, l'air, elle est de toute façon en train de rentrer sur un marché de l'économie de plus en plus, quoi, aussi, quoi.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'après, on sera arrivé au fond de l'absurdité, et donc peut-être qu'on pourra enfin se dire, ah, mais toutes ces choses-là, elles doivent être en libre usage, et définitivement, irrémédiablement. Et là, ce sera bien. Bon, alors, on va peut-être arrêter avec ces communaux, là, même si c'est hyper intéressant et qu'on y aurait passé très longtemps, mais... On va passer à la chanson des Diggers, qui est une chanson justement donc qui parle de cette espèce de soulèvement des pauvres et des hérétiques, et qui est chanté ici par Billy Bragg, c'est un gauchiste anglais qui fait du punk, de la folk, qui mêle plein d'influences.
Et c'est lui qui l'a écrit ou c'est une chanson historiquement écrite?
C'est une chanson historiquement donc qui date du 17e.
D'accord.
Et c'est lui qui la chante
aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui, il y a quelques années quoi. Voilà.
Et le titre c'est?
Le titre c'est The World Turned Upside Down.
In 1649, to St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to the masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. Men of property, the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim. Tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down.
Voilà, c'est Vacarme en Réunion. On vient d'écouter Billy Bragg. Comment tu dis que ça s'appelle? The World Turned Upside Down.
C'est ça.
La chanson des Diggers.
Le monde tourné à l'envers, quoi. Le monde tourné dans tous les sens.
Et du coup, on continue avec le communisme rural?
Eh ben ouais. Donc. Le communisme rural, pourquoi parler du communisme rural? C'est parce que c'est une forme du communisme qui est beaucoup plus proche de nous, puisque ça, c'est dans le courant du 20e siècle que ça s'est développé. Et c'est pour mettre en avant qu'il n'y a pas toujours eu un communisme qui était celui des bureaucraties, des États ou des gouvernements, hein, même à travers le Parti communiste français et les différents partis communistes en Europe. Il y a aussi eu un autre type de communisme qui était un communisme de parti, mais directement vécu localement, et qui était obligé de composer avec les réalités locales et rurales dans lesquelles il s'inscrivait. Pourquoi il a pu se développer comme ça, ce communisme rural? C'est que simplement le Parti communiste, sa base, c'était ses idéaux, ils tenaient dans la classe ouvrière. Et le prolétariat, c'est la classe ouvrière. Et du coup, au sein des appareils du Parti communiste, ceux qui occupaient des fonctions dirigeantes, c'était des gens qui venaient des cadres issus du monde ouvrier. Et donc du coup, ils délaissaient un peu ces péquenauds là, qui bon, élisaient des maires communistes, mais bon, qui n'avaient pas vraiment vocation à finalement être reconnus par le Parti communiste, quoi. Et donc du coup, ils ont pu dû à cette méfiance du PC, ils ont pu faire un peu, ils ont eu une relative autonomie qui leur a permis d'avoir des formes assez intelligentes localement et en particulier. tout un tas d'organisations de fêtes, de villages, de où ça avait un rôle très très important dans ce communisme rural. Il y avait aussi des coopératives agricoles, il y avait le syndicalisme agricole, toutes les luttes locales qui étaient très importantes. Et par endroits, il y a même eu des mutualisations de machines, de terres, de forêts. Et donc voilà. Et ça, c'est un exemple assez récent en fait de communisme. Et du coup, c'est intéressant d'aller porter notre regard un peu en arrière vers ça, parce que ça pourrait peut-être nous donner des idées aujourd'hui et puis des envies. Voilà, on passe peut-être le premier extrait d'une émission qui parle justement des restes du communisme rural dans le Limousin.
Moi, on avait des fêtes fantastiques, des fêtes tous les ans. On avait la fête du PC à Bujat. Mais il y avait un monde fou qui venait là. Et c'était pas toujours des communistes qui venaient à la fête, mais ils venaient parce que bon, il y avait beaucoup de choses. On avait des jeux, il y avait un discours politique, mais il y avait autre chose. Il y avait des amusements. Il y a toujours, c'est terminé depuis une dizaine d'années, mettons. Il y a plus de fêtes. Moi, je me rappelle, j'ai fait ça tous les ans. Moi, j'allais à la fête du PC et même les stands. Enfin bon.
Et la modernisation a changé beaucoup de choses. La télévision, les tracteurs neufs, les machines, tout s'est emmêlé. Ça n'a pas aidé les jeunes à s'assembler. Quand tu te rappelles l'époque où il y avait une partie qui marchait, il y avait une entraide formidable.
C'est vrai que cette entraide agricole permettait d'avoir beaucoup de contacts.
Donc voilà, sympathique, hein, c'est...
Ouais, avec la petite pendule derrière, qui fait vraiment comme dans Jacques Brel, quoi. Les vieux, avec leur pendule.
C'est aussi ça, le communisme rural. C'est une horloge complètement inutile, mais très très remarquable.
Des vieux qui ne comprennent pas, mais qui se comprennent entre eux.
Et voilà. Et donc aujourd'hui.
Je voulais passer cet extrait parce que du coup, c'est tout lié à.
Ah, c'est l'ambiance.
C'est le communisme dans son aspect un peu festif, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y avait des traditions de communauté, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut utiliser le mot communauté, mais avoir des terres en commun, travailler ensemble, ça veut aussi dire, du coup, faire la fête ensemble, manger ensemble, tout ça, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'il parle de comment les gens étaient ensemble et de l'entraide qu'il y avait. Et c'est comme ça qu'il nous parle du communisme rural, ce qui est assez rigolo. Il ne nous parle pas de comment la mairie était gérée ou c'est cette vie-là qui y était associée et c'est de cette vie-là dont il parle. Pour parler d'une forme politique liée à une époque, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, bon, bah, aujourd'hui, comme on le sait, ça a quasiment complètement disparu. Hein, ou en tout cas, s'il y a encore des municipalités rurales qui sont tenues par le Parti communiste, ça implique pas du tout qu'on puisse parler d'un communisme rural, puisque, comme on le voit, c'était lié à toute cette ambiance qu'il y avait autour, toute cette vie-là un peu... Et par contre, il y a d'autres possibilités, d'autres hypothèses qui apparaissent, là, qui sont tout un tas de plateformes politiques qui se présentent aux municipales ou pas, ou qui font pression sur les municipalités, enfin, en tout cas, qui sont liées aux vies de village, qu'on voit apparaître, à nouveau dans le Limousin, dans le Morvan, peut-être bientôt en Bourgogne, on peut l'espérer. Mais, enfin, en Bourgogne, le Morvan est en Bourgogne, hein, mais, disons, en Côte d'Or. Quoique, je sais pas si vraiment le Morvan est en Bourgogne, mais. Et donc ces plateformes politiques-là, elles reprennent cette pensée, cette histoire, ce vécu-là, avec forcément des formes toutes différentes, mais en tout cas où il y a cette même idée d'implication des habitants et de recréer une vie collective, mais qui soit pas uniquement tournée vers le passé, hein, qui soit pas juste ressortir du placard des vieilles formes traditionnelles, mais qui soit aussi les réinventer, quoi. Ces formes-là, elles sont à inventer perpétuellement, à réinventer. En s'aidant du passé, évidemment, et en s'aidant aussi de notre imaginaire. Du coup, pour ces possibilités, on va peut-être passer un second extrait là qui.
Ah, ça, si on pouvait retrouver cette entraide sur le plateau à tout point de vue, je dirais qu'on aurait peut-être gagné. Cette idée de rassemblement, cette idée de vouloir faire quelque chose pour le bien. Oui, je pense qu'il y a des idées qui se rapprochent, même si les années ont tourné, s'il a passé de l'eau sous les ponts, il y a des idées, des choses qui restent, c'est sûr. Et tant mieux. Ça peut qu'apporter, au mieux pouvoir se rassembler, discuter, proposer, même si ça aboutit pas comme on voudrait, que de ne rien faire. Hein? Parce que si on veut aller à l'échec, il n'y a qu'à rien faire. ça c'est l'échec complet.
Alors, quoi faire? Ben, il faut... toutes les bonnes propositions sont bonnes à prendre. Il faut les prendre.
Toutes les bonnes propositions sont bonnes à prendre.
Ah ouais, c'est pas mal ça.
C'est pas mal, ouais.
Ouais, on est en train de se demander quoi faire. Alors ça tombe bien, en fait. Bah du coup, ouais, c'est ça. Faut prendre toutes les bonnes propositions bonnes à prendre.
Ah, il en existe encore. Enfin, toutes les bonnes propositions de forme de communisme rural, tu veux dire?
Non, bah oui, déjà c'est
de
quoi
forme des... de réappropriation collective, un peu des terres et de. Et
ouais,
des,
c'est
des
ça.
Vies, quoi,
de... Il y a des possibilités aujourd'hui. Il y a des choses qui se font déjà. Il y a des. Il y a des, on peut penser à mutualiser des prés, des forêts, faire des chantiers en commun dans les villages, là où les services publics sont en train de disparaître. C'est pas des segments qu'on doit pour autant abandonner parce que l'État les abandonne et que du coup nous sans État on est perdu. Mm-hmm. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont.
Il y a des formes de partage des bois. Nous, dans notre commune, on a des affouages collectifs. Enfin non, les affouages ne sont pas collectifs, on en parle souvent. Mais le bois est libre usage pour les affouages des gens qui habitent sur la commune. Des choses comme ça qui perdurent un peu de l'espace commun. Quoi,
des communaux, ouais.
Ensuite, ce qui est un peu triste, c'est ce qu'on se dit souvent, nous, c'est que ça reste quand même une petite parcelle que chacun fait de son côté et qu'on pourrait essayer de retrouver quoi, des formes de travaux un peu collectifs, d'aller faire des affouages à plusieurs, des choses comme ça.
Ouais.
Et puis, il y a des fours communaux, par exemple. Bon, c'est qu'une série de détails, mais de choses qui peuvent déployer des vies un peu chouettes dans les villages, quoi. De certains villages qui ont repris des fours communaux et qui font retravailler, qui refont le pain pour toute la commune ou des choses comme ça, quoi. Puis ouais. Plus largement les fêtes de village, de toute façon, qui sont toujours un peu les lieux aussi de partage.
Et se méfier, du coup, de tous les dispositifs censés apporter le progrès qui, en fait, vont à l'encontre de ça, quoi, de cette
ouais,
vie-là.
Et de tous ceux qui sont censés créer du lien social.
Et de ceux qui sont censés créer du lien social, ouais.
Qui font souvent l'inverse. Enfin, non, ou qui juste brisent un peu ce qui existe déjà, quoi, pour le disposer, d'une certaine manière.
Voilà, on verra la suite. Disons dans 5 ans.
Des enjeux.
Non, là...
Tu voulais parler encore du communisme rural ou tu voulais qu'on présente notre petite rubrique littéraire?
Ouais, on va passer à la rubrique littéraire.
Parce qu'on a, il nous reste plus grand, beaucoup de temps et il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur notre rubrique littéraire. Du coup, c'est un texte que toi, t'as trouvé cette semaine? C'est ça?
Ouais, enfin, que j'ai trouvé. Qui m'a trouvé, on va dire.
Qui t'a trouvé? C'est quand même toi qui le présente parce qu'il va pas te présenter alors.
Ah, mince. Donc, c'est un texte intitulé. Enfin, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Bolo Bolo. Alors, qu'est-ce que le bolo bolo? Bah, le bolo bolo, c'est l'unité de base, disons, communautaire du monde à venir, qui viendra, donc, disons, dans 5 ans.
Et, un texte qui date de 83.
Un texte qui date de 83, en effet, qui est écrit par un illustre inconnu, et tant mieux d'ailleurs, et qui déjà en 83 problématise assez bien, on va dire, tout un tas de questions auxquelles on fait face aujourd'hui, tout un tas de déshérences qui nous sont malheureusement imposées de vivre, et inversement avec un peu d'humour et de car un côté un peu farfelu, un peu comme ça assez déluré, il invente des manières et des formes de justement recréer du commun et d'imaginer des échappatoires à ce grand système de la machine travail planétaire, ce qu'il appelle la machine travail planétaire, qui est en gros ce qui organise nos désirs, ce qui organise nos vies, notre
ce
temps,
qui organise le travail.
Ouais. Le travail étant relativement étendu, quoi, parce que jusqu'à la sexualité, il peut s'agir de travail ou jusqu'au sport ou etc. Donc c'est ce qui voilà.
Et le texte dit que du coup cette machine travail planétaire, elle crée une certaine réalité, et que du coup le bolo bolo ce serait un peu comme créer une seconde réalité, quoi, une autre réalité, quoi, créer autre chose, quoi.
Ouais.
Tu veux que je lise maintenant?
Allons-y.
Du coup t'avais choisi un passage, je lis. La religion devient le business des sectes, la nature est exploitée par le tourisme, et le sport, l'amour du pays, dégénère en prétexte idéologique pour les industries d'armement, la sexualité est commercialisée, etc. Il n'y a pas de besoin qui ne puisse être transformé en marchandise, mais en devenant marchandise, il est réduit et mutilé. Certains besoins se prêtent particulièrement mal à la production de masse, notamment le besoin d'une expérience personnelle authentique. L'intégration dans la machine ne réussit que partiellement, et de plus en plus de gens demandent une pause. Le succès des mouvements écologistes, des pacifistes, des minorités ethniques ou régionalistes, de la nouvelle religiosité, les églises progressistes ou pacifistes, et des sous-cultures homosexuelles, est probablement dû à ces insuffisances de la machine travail planétaire. Partout où l'on redécouvre, ou bien l'on crée des identités, en deçà de la logique économique, il y a des nœuds. Des intellectuels, des employés, des femmes et des hommes se retrouvent en tant qu'objecteurs de conscience sans se préoccuper de leur emploi. Les membres des professions les plus diverses se retrouvent en tant qu'homosexuels. Les Indiens, les Basques ou les Arméniens luttent ensemble. Les femmes aussi. Une sorte de nouveau nationalisme ou régionalisme dépasse les barrières de la profession et de l'éducation. La Vierge Noire de Częstochowa a contribué à unir les travailleurs, les intellectuels et les paysans polonais. Ce n'est pas un hasard si ces derniers temps, ce sont presque toujours des mouvements de ce genre qui ont atteint une certaine intensité. Leur pouvoir substructeur se fonde sur la multiplication des rencontres. La première réaction de la machine a toujours été de jouer l'un contre l'autre les éléments de ces rassemblements et de rétablir le vieux mécanisme du rejet mutuel. Les mouvements mentionnés ci-dessus n'ont produit que des discos abaissés, superficiels et de courte durée. Dans de nombreux cas, les travailleurs des différentes catégories ne se sont rencontrés qu'à l'occasion d'un seul événement, puis sont retournés dans leur division quotidienne. Ceci a créé beaucoup de mystification. Pour exercer une influence durable, ils devraient aussi être capables de remplir des tâches quotidiennes en dehors de la machine. Ils devraient essayer d'organiser l'entraide, l'échange extra-monétaire des services et des fonctions culturelles concrètes dans les quartiers. Dans ce contexte, ils devraient anticiper les bolos, les accords de troc et l'autosuffisance alimentaire. Les idéologies, ou les religions, ne sont pas assez fortes pour dépasser les barrières telles que le revenu, l'éducation, la position sociale. Les catégories A, B, C doivent se compromettre dans la vie quotidienne. Certains niveaux d'autosuffisance, d'indépendance de l'État et de l'économie doivent être atteints pour stabiliser de tels nœuds de disco. On ne peut pas travailler 40 heures par semaine et avoir encore assez de temps et d'énergie pour des initiatives de quartier. Les nœuds ABC doivent être plus qu'un décor culturel. Ils doivent être capables de remplacer au moins une petite fraction du revenu monétaire et libérer une partie du temps.
Ouais, c'est chouette.
Il y a un jargon un peu incompréhensible pour si on a juste cet extrait-là, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, les discos ABC, c'est les moments où ça dysfonctionne, en fait. On pourrait réduire ça comme ça.
C'est ça, ouais.
Les moments où la production dysfonctionne, l'espèce de rythme, la manière dont on pense structurellement dysfonctionne. Du coup, ça crée des nœuds et des dysfonctionnements, quoi.
Ouais, quand il parle de substructeur aussi, l'idée de substruction qui est développée dans le livre où il trippe un peu sur la subversion qui mêle construction et destruction. C'est une assez belle idée. Et partout où il y a de la destruction, il faut qu'il y ait immédiatement et en même temps de la construction, sinon on crée un vide qui va être rempli par la machine travail planétaire. Et voilà. Et à la fin, il développe cette idée d'autosuffisance là, qui est justement d'idée de construction qui doit être, qui doit avancer en même temps que la destruction, et qui peut la rendre possible en tout cas, qui la rend possible. Et du coup, on revient à cette idée un peu de communisme. Enfin, en tout cas, on peut revenir à cette idée de communisme rural, quoi, dans l'idée d'autosuffisance alimentaire, qui est pas une autarcie alimentaire, surtout pas, qui est pas non plus une espèce d'alternative où on va mieux manger que les autres en sachant ce qu'on fait et comment on le fait, mais qui est aussi la possibilité de créer des complicités avec les voisins parce qu'on fait comme ci comme ça, en même temps, de créer des manières de produire qui nous plaisent et qui du coup libèrent aussi une énergie un peu offensive par ailleurs, quoi.
Ouais, parce que lui il dit que tout le monde fait partie de la machine, quoi. Tous les gestes, tout le monde fait partie de cette grande machine qui tourne, et que du coup c'est pas possible de trouver une alternative, quoi. D'aller se trouver un petit coin et faire autre chose dans un coin, quoi. Du coup il s'agirait pas d'aller créer un lieu autonome en autarcie, quoi, comme tu disais, quoi.
Prétendument hors du monde, quoi.
Ouais, prétendument hors du monde. Il dit il y aura d'autres gestes, il y aura une autre réalité qu'à partir du moment où on aura substrué, non, c'est ça le mot, ouais, enfin détruit en construisant autre chose, la réalité qui existe aujourd'hui, quoi. Et que cette substruction, on a besoin de tout le monde pour la faire, et que du coup tout acte de de désertion, de construction d'autre chose, elle doit à la fois se penser comme un acte destructeur et un acte constructeur, quoi. Peut-être on peut passer lire un dernier extrait de ce passage-là, et qui explique un peu plus généralement un peu la pensée du livre, et puis après on va se quitter.
En plus là je lis une partie que c'est toi qui as sélectionnée, comme ça on tourne, c'est pas mal.
Facile.
Misère dans le tiers-monde, frustration dans les pays socialistes et déception à l'Ouest. La dynamique principale de la machine est le mécontentement réciproque et la logique du moindre mal. Que pouvons-nous faire ? Les politiciens réformistes proposent d'aménager la machine, de la rendre plus humaine et plus agréable à vivre en utilisant ses propres mécanismes. Le réalisme politique nous conseille de procéder par petits pas. Selon les réalistes, la révolution microélectronique serait en mesure de nous fournir de nouveaux moyens pour les réformes. Ces propositions sont raisonnables, même réalisables, et certainement pas extravagantes. Elles constituent le programme plus ou moins officiel des mouvements alternatifs socialistes, verts, pacifistes, en Europe occidentale, aux États-Unis et dans d'autres pays. S'il était réalisé, la machine travail aurait un air plus supportable. Mais même ce programme radical n'implique qu'un réajustement de la machine, non pas sa destruction. Aussi longtemps que la machine existe, l'auto-administration et l'autonomie ne peuvent qu'être utilisées comme espace de récréation pour la réparation des travailleurs épuisés. La machine travail planétaire est omniprésente et ne peut pas être arrêtée par la politique. Ne nous y trompons pas. Même si nous mobilisons tout notre esprit de sacrifice, tout notre courage, nous ne pouvons rien faire. La machine est parfaitement équipée contre les kamikazes politiques, comme l'ont montré les expériences de la fraction armée rouge, des brigades rouges, des montoneros et d'autres. La machine peut coexister avec la résistance armée et la transformer en moteur de son perfectionnement. Il n'y a pas de problème moral, ni pour nous, ni pour la machine. Que nous nous suicidions, que nous réussissions un super deal, que nous trouvions un créneau ou un refuge, que nous gagnions à la loterie, lancions des cocktails Molotov, que nous adhérions à un parti de gauche, que nous nous grattons derrière l'oreille, ou que nous jouions au tireur fou, nous sommes à bout de course. Dans cette réalité, il n'y a rien à espérer. L'opportunisme ne paie pas, le carriérisme n'amène rien et ne cause qu'ulcères, psychoses, mariages ou obligations. Alternative ne signifie qu'auto-exploitation, ghetto, meeting. L'intelligence est fatigante, la stupidité est ennuyeuse. Il serait logique de se poser des questions simples telles que « Comment voudrais-je vivre ? Dans quelle sorte de société ou de non-société ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Où voudrais-je aller ? Quels sont mes vœux, mes désirs, indépendamment de ce qui semble réalisable ou pas ? Et tout ceci, non pas dans un avenir lointain, mais de notre vivant, pendant que nous sommes encore en bonne santé. Disons, dans 5 ans. »
Voilà. Du coup, c'était un extrait de Bolo Bolo. Le livre, il s'appelle comme ça ?
C'est ça, ouais. Bolo Bolo.
Et on va mettre l'intégralité du livre en ligne sur tvnr.noblogs.org. Puis on en reparlera sûrement, parce qu'il y a plein de choses... à comprendre,
à redire,
pense, dans ce texte.
C'est sûr.
Et voilà.
Et puis, salut Bianca.
Et bah ouais, salut.
À dans 15
Denis.
Jours, peut-être.
À dans 15 jours, et puis la semaine prochaine, c'est Terrain Vague. Et puis en se quittant, on écoute quoi ? Du Klezmer.
Ouais, du Klezmer, ouais, carrément.
Ouais, super. Allez. Voilà, on vous laisse avec du Klezmer. Ciao.
Ciao. Para